Ce matin, nous recevons Frédéric Rossif et Maren Berg, et puis aussi en direct de Bonn, Gérard Scherb, notre correspondant de Radio France, car nous avons regardé hier soir et avant-hier soir sur Antenne 2, de Nuremberg à Nuremberg, un film réalisé par Frédéric Rossif.
15 septembre 1935. Il y a à peine un an qu'Adolf Hitler est en possession de la totalité des pouvoirs en Allemagne. À Nuremberg, le congrès du parti nazi est baptisé « Triomphe de la volonté ». « Quoi que tu ordonnes, ô Führer, nous l'accomplirons », psalmodie des dizaines de milliers de nazis rassemblés. Le fanatisme est la seule forme de volonté qui puisse être insufflée aux faibles et aux timides, écrivait Friedrich Nietzsche. Le hurlement remplace désormais la parole, le verbe aboie et règne.
Réalisation, Frédéric Rossif, vous l'avez reconnu, le narrateur, celui qui a aussi écrit le texte, c'est notre ami Philippe Meyer, également de France Inter. Toutes les questions que vous posez à propos de ces deux émissions du débat d'hier soir, c'est aujourd'hui au 45 24 7000 qu'il vous faut les poser, précédées du 16 et du 1 si vous nous appelez de l'extérieur de Paris et de la région parisienne. Et je le sais, on nous écoute beaucoup sur l'émetteur de France Inter qui est à Berlin. Dans ce cas-là, si vous voulez intervenir de là-bas, vous faites le 33 1 avant de faire le 45 24 7000. Et puis le Minitel, 36 15, code RF, la page est quant totale, Jacques Chancel.
La litanie horrible d'une première moitié de siècle pervertie, de Nuremberg à Nuremberg, l'aube sinistre et le crépuscule bienheureux, un film magnifique, évidemment terrible, de Frédéric Rossif, un texte exact de Philippe Meyer. Le déroulé, l'itinéraire de l'horreur, avec tout de même, au commencement, un déferlement d'amour, d'enthousiasme malsain, une adhésion apparemment totale de l'Allemagne à un homme nommé Hitler. Bizarre comportement des êtres, déchirure de l'histoire. Il importe que de tels événements soient rappelés aux plus jeunes, que la cruauté soit montrée aux plus fous, à ceux qui aujourd'hui voudraient faire croire qu'il n'y eut pas de camp de concentration. Quelles images hier, quel choc, quelle honte, quelle désespérance. On devait déjà à Frédéric Rossif quelques productions révélatrices des soubresauts du monde. En donnant beaucoup au cinéma, à la télévision, Frédéric Rossif aide grandement à la compréhension des peuples. Au final de ce film, on peut justement conclure qu'il y a victoire. Et pourtant, j'ai le sentiment, personnellement, enfin, partagé sans doute par beaucoup, que cette victoire est une défaite de l'homme. Et il est intéressant, dès le départ de cette conversation, peut-être de poser la question à Maren Berg, allemande, vivant en Europe, s'étant installée à Paris, franco-allemande, je dirais, qui a souvent porté beaucoup de ses chants, justement, chez nous. Comment avez-vous réagi, Maren Berg, hier et avant-hier, en retrouvant toutes ces images?
Avec deux sentiments. D'abord, je dois dire que ce film et ces films ont été admirablement faits, et je suis très, très honorée de faire la connaissance de Frédéric Rossif. En plus, évidemment, parfois, j'ai un tout petit peu tendance à dire « Oh non, non, pas encore, plus.
J'en peux plus. » Arrêtons avec tout cela.
Arrêtons. Oui. L'aujourd'hui et le demain est plus important que l'hier. Mais, je crois que vous savez, c'est comme un peu dans une psychanalyse. On revient tout autour du même problème pendant X temps. L'impression de ne pas progresser et subitement, on fait une prise de conscience. Et je crois que ce qui est important, et vous disiez tout à l'heure, pour les jeunes aujourd'hui, moi je chante beaucoup pour les professeurs d'allemand, par exemple dans les lycées, surtout ici en France, mais aussi en Allemagne. Et ce qui est très très important, c'est que moi j'ai fait la prise de conscience parce que ma mère m'a forcé de regarder ce film quand j'avais l'âge de 16 ans.
Le film passé à Nuremberg.
Oui, c'est-à-dire le film du procès de Nuremberg. Et je suis sortie de là, verte, j'étais vraiment prête à tomber dans les pommes. Mais c'était important parce que ça a conditionné un tout petit peu toute mon image d'adulte. C'est-à-dire que je serai toujours du côté de ceux qui lutteront contre un éventuellement néo-fascisme ou néo-nazisme.
Mais Maren, êtes-vous étonnée lorsque vous voyez ce que je disais à l'instant, ce déferlement d'amour, d'enthousiasme que l'on dit aujourd'hui malsain, mais ces troupes, cette adhésion totale d'une Allemagne, peut-être vous dites-vous, vous êtes jeune, J'aurais été parmi ces gens-là?
Bon, disons que moi je suis née en 46 et j'ai eu, comme dit Francis Lemarque dans sa chanson, quand un soldat revient de la guerre, il a eu simplement eu de la chance. Et puis voilà, moi j'ai eu simplement de la chance de ne pas être née dans une famille qui adhérait totalement à ce système. C'était des mitlof, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le parti parce qu'il fallait être dans le parti, mais vraiment sans enthousiasme aucun. Mais ils n'étaient pas non plus résistants. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je souhaite ardemment, mais comment voulez-vous le savoir? Je sais ce que je fais maintenant, mais je ne peux absolument pas savoir parce que je n'y habitais pas à cette époque. C'est simplement que je crois que ce qui est très très important, c'est des films comme ça. Vous parliez tout à l'heure d'amour. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'était pas de l'amour. Justement, il est dit dans un des papiers qui était avant pour annoncer ces dossiers de l'écran dans Télérama, on a dit que justement, ce qui est important dans ce film, pour qu'il voit comment le terrorisme n'a jamais le courage de s'assumer jusqu'au bout. Et que c'est important de savoir qu'on puisse se faire embrigader dans quelque chose.
Non, mais les images du début sont des images d'un sentiment national. Elles parlent, les images.
Oui, tout à fait. Mais je ne crois pas que ce soit de l'amour, c'est du fanatisme.
Oui, mais...
Ce qui n'est pas pareil.
On s'entend sur les mots, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Marenberg, vous devez vous dire, là, deux films de Nuremberg à Nuremberg, deux soirées consacrées complètement à...
Surtout à 20h30,
À 20h30. Encore nous, les Allemands, et vous êtes nés en 46, donc au lendemain de cette horreur. Et vous devez vous dire, nous les jeunes, il faudrait peut-être arrêter avec tout cela, parce que c'est l'Allemagne qui est en cause, et l'Allemagne d'aujourd'hui. Et ce sera important d'avoir d'ailleurs tout à l'heure Gérard Scher, pour voir de quelle manière on peut réagir.
Tout à fait, c'est-à-dire ce que je crois important, c'est de savoir que quand même, dans ces deux films, la France et la responsabilité des alliés est mise aussi en cause. Ça, je crois que c'est important. C'est aussi bien d'avoir éventuellement un jour une rediffusion de L'Arc en bleu ciel, pour savoir aussi qu'il n'y a pas eu uniquement des maquisards en France, mais aussi des collabos et des Français qui ont livré des Juifs à la Gestapo allemande.
Beaucoup de Juifs arrêtés.
Sans qu'on leur demander rien.
Ouais.
Ça, je crois que c'est extrêmement important, que ce ne soit pas toujours les méchants Allemands, mais aussi justement de prendre une prise de conscience et de dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour le futur?
On va revenir à hier soir, la situation de l'Allemagne, dans le film, le très beau film de Frédéric Grossif.
Paul von Hindenburg, maréchal d'un autre âge et chef d'État de rencontre, donne l'illusion de la grandeur et de l'ordre à un pays qui, comme toute l'Europe, est secoué par les conflits entre extrémismes et, plus que toute l'Europe, assommé par la crise. Le nombre des chômeurs triple entre 1929 et 1933. Il représente 35% de la population active et 6 millions d'individus. Les salaires baissent en moyenne de 35%. La miche de pain s'achète en milliards.
Voilà des documents sur ces deux films d'hier et d'avant-hier, de Nuremberg à Nuremberg, un film de Frédéric Rossif, le texte de Philippe Meyer. Je voudrais savoir, Gérard Scher, comment on peut réagir en Allemagne sur une diffusion comme celle-là, alors que nous sommes vraiment dans un autre bain, dans un autre climat, avec ce mur de Berlin qui s'en va petit à petit, et heureusement.
Gérard Scher, en direct de Bonn.
Peut-être qu'on pourrait faire dans quelques mois ou dans quelques années une autre émission qui s'appellerait « De Berlin à Berlin », puisque finalement ce qui s'est passé récemment avec l'ouverture du mur, c'est une marque tangible, si vous voulez, de la fin de la guerre. Et c'est la fin d'une époque, et il y a des parallèles à faire, si vous voulez, entre ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, à la fin de la guerre, et ce qui se passe actuellement en Allemagne de l'Est. On a vu au procès de Nuremberg plein de gens qui disaient « mais moi j'y étais pour rien, moi j'ai exécuté des ordres, moi j'ai agi pour le bien de mon pays, en soldat ou en fonctionnaire consciencieux ». Et on a vu il y a 15 jours ou il y a 8 jours au Parlement et dans les médias d'Allemagne de l'Est, des gens qui, au nom d'un autre totalitarisme, avaient agi exactement de la même manière et qui sont venus dire « mais moi j'y suis pour rien, moi j'ai exécuté des ordres, moi j'ai agi pour le bien de la nation, pour le bien de mon peuple ». Et finalement, il y a beaucoup de parallèles à tirer entre ces deux époques, puisque finalement, la fin de la guerre, c'était la fin d'une époque pour l'Allemagne, qui est devenue ensuite l'Allemagne de l'Ouest. Et peut-être qu'on est en train de rejouer les mêmes scènes aujourd'hui à Berlin-Est et dans toute l'Allemagne de l'Est, où on annonce d'ailleurs aussi des procès contre les anciens dirigeants qui vont devoir faire face à leurs responsabilités et qui tiennent un langage qui est tout à fait comparable à ce qui se passait après la guerre, où il y a des questions de pénitence maintenant.
Gérard Cher, d'abord il faut préciser que ces films avaient été installés dans les programmes il y a longtemps. Cela n'avait aucune relation avec les événements qui se déroulent aujourd'hui à Berlin. Mais d'abord, on pourrait se demander si un film comme celui-là pourrait être diffusé en Allemagne aujourd'hui.
Ah, je pense que oui. Je pense que les médias d'Allemagne de l'Est et d'Allemagne de l'Ouest parlent abondamment, mais parfois jusqu'à se faire mal, de ce passé qu'ils n'ont pas encore assimilé, qu'ils n'ont pas encore digéré. Et il y a en Allemagne un terme qui s'appelle la Vergangenheitsbewältigung, qu'on pourrait traduire par la maîtrise du passé, et qui fait que à longueur de semaine, sur les télés d'Allemagne de l'Ouest, par exemple, on voit des émissions qui tournent toujours autour du même sujet, autour de la même question. Comment avons-nous pu faire ça? Ça a été plus vrai que jamais il y a quelques mois, quand on a commencé à parler du 50e anniversaire du début de la guerre, où on est revenu sur l'invasion de la Pologne, on est revenu sur la naissance du nazisme, et où le souci général a été de dire il faut que les jeunes, justement ceux qui sont nés après la guerre et qui n'ont pas connu ça, comprennent que la chose est possible, comprennent que la chose peut se produire à nouveau.
Gérard Chat, nous allons revenir au film d'hier soir et d'avant-hier soir, le film de Frédéric Rostif, à cette évolution du mouvement nazi.
En 1926, le mouvement nazi rassemble 27 000 adhérents. En 1930, il passe avec 18% des voix de 12 à 106 députés qui se présentent au Parlement en uniforme. Aux élections présidentielles de 1932, Hitler recueille 30% des voix. Aux législatives qui suivent, les nazis représentent 37% de l'électorat. La faiblesse et les divisions des partis de droite et du centre-droit font du parti nazi le pivot d'une majorité nouvelle. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par Hindenburg. Quelques mois plus tôt, le vieux maréchal jurait qu'il ne ferait même pas du leader nazi un sous-secrétaire d'État au poste.
Frédéric Rossif, nous avons regardé hier et avant-hier ce que vous avez su réaliser. C'est un document, je le disais tout à l'heure, magnifique et évidemment terrible. Ce sont des images fortes, cruelles. Parfois, lorsqu'on les voit, on avait vu certaines, mais on n'avait pas vu la totalité. Et puis surtout, au dernier moment, hier, ces atrocités, c'est presque ces plongeons de cadavres, ce déroulé de l'horreur. Alors, comment travaille-t-on dans un cas comme celui-là?
On ne travaille un peu au contraire de ce qu'on fait d'habitude quand on fait ce style de film. C'est-à-dire, quand on fait ce style de film, il y a d'habitude un texte d'un professeur d'histoire, d'habitude, et on colle des images dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, le film, il respire plus. Et nous avons essayé, enfin moi, Philippe Meyer, Vangelis, c'est très important, le rôle de mon ami, Vangelis, dans cette musique qui montre, parce qu'on dit toujours, il fait qu'il y a une bonne musique pour les animaux, vous voyez. Pour les hommes, c'est pas si mal que ça. D'ailleurs, il avait fait déjà une belle musique sur un thème parallèle, qui était les chariots de feu, mais c'est un autre problème. Et nous avons essayé de sortir des fragments incandescents d'histoire. Et de les coller l'un à l'autre. Parce que nous savons très bien que les gens n'ont pas de mémoire, mais qu'ils ont des souvenirs. Et on a essayé d'attaquer le souvenir autant que la mémoire, d'accélérer dans certains rythmes et après de ralentir pour permettre aux gens de revenir dans le film. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire un récit. Mais ce récit, c'est pas du tout l'histoire de la guerre. Autrement, ça aurait été banal, les batailles, les généraux qui viennent. Et aussi une chose qu'on a fait, on n'a pas pris de témoins. On n'a pas pris de témoins qui viennent maintenant
seulement
parler.
Seulement les images.
Seulement les images, pour une seule raison, car nous savons tous que les témoins mentent. Moi, je mens 2 heures après son accident de voiture qu'on vient d'avoir. Les témoins mentent,
les images ne mentent jamais.
Ils mentent pas. Et donc, les images, ils donnent l'approche la plus logique. Les témoins, ils théâtralisent. Et c'est très beau, la théâtralisation. C'est aussi un style, d'ailleurs. C'est pas du tout que je refuse. Mais là-dedans, ça aurait fait un hiatus. Ça aurait fait le fameux arrêt cardiaque et le montage suffit pas. Alors, on a essayé de faire ce rythme. Et surtout, que le texte de Meyer, qui est très beau, la musique de Vangelis, mon montage, ma petite mise en scène, tout contribue.
Je posais la question à Gérard Cher à l'instant, Frédéric Rossif, un film comme celui-là, deux films comme ceux-là, peuvent-ils être présentés ailleurs et surtout en Allemagne? Avez-vous des commandes pour d'autres pays?
Oh oui, ça ils sont présentés parce que partout ailleurs. Il est sûr qu'en Allemagne ça peut être un peu dur, mais cela dit, faut pas exagérer. Moi je me souviens, vous savez, j'avais déjà fait des films comme ça. Et il y a des années, j'avais fait La chute de Stalingrad, oui. Qui est une suite de films. Qui est la bataille de Stalingrad. Il faisait 19 choses à l'époque. Et ce film avait été interdit en France parce qu'il y avait l'interview de Nikita Khrouchtchev qui disait « Et ces Allemands recommencent, nous sommes prêts ». La semaine après, toutes les télévisions allemandes passaient les films que la France puritaine de l'époque avait interdit. Donc souvent dans ce domaine, l'Allemagne neuve, l'Allemagne de maintenant, elle a un comportement démocratique très souvent supérieur au nôtre.
Alors c'est la montée et puis la descente. La montée, je ne dirais pas au ciel, mais la descente aux enfers. Le premier film, c'est l'enthousiasme pour un homme. Le deuxième film, c'est la cruauté, c'est l'horreur. Mais à un point tel, les dernières images, Frédéric Rossif, sont insoutenables.
Vous savez, dans les dernières images, vous avez une heure et demie de film dans le deuxième. Et vous avez exactement 5 minutes... 23 secondes, je les ai mesurées de quand on
s'est passé. Elle compte
seulement, les images n'ont pas la même densité. Voilà. C'est ça. C'est pas la durée dans l'espace de la mémoire n'est jamais le même. C'est ça.
Christine Lamazière, les fiches, je les vois s'accumuler.
Oui, tout à fait. Alors, Frédéric Rossif, les auditeurs et les téléspectateurs ont été ravis de regarder ce que vous avez fait hier soir et avant-hier soir. Félicitations pour ces deux soirées programmées pour une fois à une heure convenable. Merci pour de telles émissions. Images. Alors, ça, c'est de Jacqueline d'Aubervilliers. Images insoutenables au bord de la nausée, même quand on les connaît par cœur. Mais c'est nécessaire pour l'éducation de la nouvelle génération, il faut que l'on sache que cela a existé. Alors d'autre part, beaucoup de gens se posent la question, mais d'où viennent les images des camps nazis?
Ça, c'est... Mais qui a filmé ces images?
Qui a filmé ces images des camps nazis?
Service cinéma des armées.
Les images inédites des camps nazis que vous voyez là, c'est un mélange, comme si c'était un montage. Il y a des images, vous voyez, cette question pose les problèmes même de l'image. Goebbels avait fait faire un film sur les ghettos de Varsovie, dont moi j'ai montré des images. Pour montrer, ce film, il devait durer, parce que vous savez, c'était le film dans la fameuse théorie, nous régnons pour 1000 ans. Et dans les 1000 ans, il devait montrer l'anéantissement de la race inférieure. Et il a fait faire ce film. Goebbels est intelligent. C'était l'ange noir, mais il était pas bête. Et il l'a jamais passé, ce film. Parce que tout d'un coup, il s'est aperçu que l'image avait c'était retourné. Quelle signification de l'image qu'il y croyait méprisante, il venait une terrible image d'accusation. C'est-à-dire que l'image a une force telle que même ceux qui la font, ils savent pas très bien la manipuler. Et c'est ça le mystère de l'image. Alors, certains de ces camps de concentration ont été faits par les Allemands, et certains, c'est la toute première image inédite que j'ai pu obtenir des Russes, qui a dès que j'étais arrivé, les jours après, ils voulaient filmer, et ils avaient été filmés, ces morts, très hiératiques.
Oui.
Ils étaient filmés pour le procès de Nuremberg, et ils n'ont jamais ressorti depuis le procès de Nuremberg.
Oui, on l'a vu d'ailleurs, les soldats soviétiques, justement, qui soutenaient ces gens.
Et il y a même deux images qui auraient pu être mises en parallèle, dans l'un des films, je crois, tous ces enfants sur la table, vivants mais alignés comme des marchandises.
La montée nazie.
Ensuite, c'était comme la montée nazie, ensuite la descente aux enfers, tous ces cadavres. Mais ces cadavres accumulés avec parfois le bulldozer là, qui poussait. Et autre image, et là c'est sans doute tout le talent de Frédéric Rossi, parce que c'est une mise en scène aussi, ce sont les images, c'est l'histoire, c'est la cruauté, mais c'est aussi du cinéma. Lorsque Hitler danse, lorsque Hitler s'amuse, ça n'est pas l'image qui s'amuse?
Oui, bien sûr. Là, disons vérité, que là, c'est vrai que nous avons dans le montage, oui, tapé deux fois un mouvement pour le faire danser, etc. Mais parce qu'il y a dans cette densité, moi, j'ai essayé, pour moi, Hitler, j'ai essayé de le faire un peu comme un personnage shakespearien. C'est-à-dire, les lucifériens qui va jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a une théorie actuellement qui serait possédée par le démon, d'autres, c'est en Hitler. Mais moi, je crois que le phénomène hitlérien, nous avons montré ça aussi pour montrer que c'est pas l'effet d'un peuple, tous les peuples auraient pu. On accuse toujours les Allemands, et par exemple, moi je me rappelle, après la guerre, les Autrichiens étaient les saints. Vous rappelez? Or, quand on examine les chiffres, les Autrichiens ont voté à un taux supérieur aux Allemands pour adhérer à l'Allemagne.
Tout à fait. Ouais. Et c'est encore un problème aujourd'hui, en Autriche.
Alors, tout à l'heure, Marienberg disait, dans ce film, les Allemands sont forcément en accusation. Mais avant que vous n'arriviez, Frédéric Rossif, elle pensait qu'on avait fait la part belle aux collaborateurs en ne parlant pas tellement d'eux. Et elle disait, il y a quand même des Juifs qui ont été arrêtés par des Français et livrés aux Allemands.
Vous savez, un film n'est qu'un film. Un film est un objet moral. Mais il faut qu'il aille sa force et soit défini. Il y a un film à faire sur la collaboration.
Oui. Nous, vous y pensez?
Oui, non, je n'y pense pas. Mais nous pensions à faire un film qui s'appelait « De Nuremberg à Nuremberg ». Ce qui m'avait intéressé, moi, c'était la forme du nazisme. Et cette forme de nazisme qui est presque unique, enfin qui a été répétée dans l'histoire, mais qui est presque unique, c'est-à-dire la forme. Pourquoi le nazisme est unique? Parce qu'il s'appuie sur une idéologie qui est en même temps lyrique et laïque. Et alors c'est l'horreur totale. Ni Dieu... mais en même temps le votant. C'était vraiment des païens barbares. Et c'est la première fois que les païens barbares ont fait intrusion dans le XXe siècle. Il y a eu d'autres dictatures, le marxisme a fait beaucoup de morts, mais c'était une toute petite différence, c'était pas une idéologie païenne et barbare.
Mais vous ne pensez pas, Frédéric Rossif...
C'est trompé autant, mais c'est un autre problème.
Vous ne pensez pas qu'il y a des signes, ce film était prévu depuis longtemps. Je veux dire, le programme était inscrit.
Oui.
Et il vient à quel moment? Il vient au moment où se déroulent les événements que l'on sait en Allemagne et à Berlin.
On sait jamais quelle heure il est à l'horloge invisible de l'histoire. Vous savez, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, cet étrange. J'avais un film qui s'appelait Mourir à Madrid. Ah, il avait été interdit totalement. Et après, enfin, André Malraux l'a fait sortir, 6 mois après l'interdiction, et on sort le mercredi. Et le vendredi, Franco, qui était vivant à l'époque, fusille Grimau. Et tout d'un coup, le film part, le monde, je m'appelle 4 colonnes, Mourir à Madrid, le titre servait de... Souvent, nous ne savons pas quelle heure il est à l'horloge invisible de l'histoire. Ça m'a toujours paru étonnant. On retarde, on ne sait pas ce qui va nous arriver.
Alors,
heureusement, d'ailleurs.
Vous avez été le metteur en scène de ces deux films, et j'imagine que hier, vous étiez devant votre écran pour regarder la discussion, qui est le contraire de ce que vous avez souhaité, puisqu'en effet, vous avez dit pas de témoignages, seulement des images qui parlent et qui ne mentent pas. Alors hier, est-ce que le mensonge reprenait le devant de la scène?
C'est pas ça que je veux dire, du tout, du tout. Je pense que la discussion est très bien. La discussion d'hier était sur le film.
Oui.
C'est que je voulais, elle n'était pas insérée dans le film. Il n'y avait pas un témoin qui disait j'étais là, j'ai vu ça. Et elle ralentissait pas les rythmes du film qui lui, il était passé comme un bloc différent. J'ai assisté à la discussion hier. Ce qui était évident dans la discussion hier, c'est que terrible, c'est que les hommes ont la mémoire actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des discussions hier, il y avait un filigrane, les deux blocs, l'un cédant à l'autre, l'intérêt de paix. L'intérêt profond du film, il a peut-être été, je ne dis pas escamoté, mais il a été un peu oublié, car au fond, ce qui manquait, la discussion d'hier, serait peut-être eu un grand métaphysicien, qui moi j'aurais mis. Il faut toujours revenir à la métaphysique, il faut revenir au goût de la pensée, qui nous permet aussi d'être heureux.
Et vous avez eu raison, sans aucun doute, de ne pas installer des gens qui témoignaient, parce que les images étaient si fortes que le récit était parfaitement évident et que l'on comprenait. Parce que dès lors qu'on commence à discuter, à trouver les torts des uns et des autres et à se renvoyer la balle, immédiatement on entre vraiment dans l'obscur.
Il y a un autre problème que j'apprends pas à vous, cher ami, c'est que vous savez bien que toute personne qui est mise devant une caméra, je l'ai fait longtemps, j'ai des années de ciné-panorama, j'ai tourné à peu près tout ce qu'on peut tourner dans le monde, chef d'État, acteur, chanteuse, médecin, prix Nobel, ils se mettent tous en situation de théâtralité. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont déjà vu sur la télévision, et ils font de la télévision ou du cinéma. Il y a très peu de gens qui, passant à travers, ils maintiennent assez de comment on disait, Céline, assez de musique en soi pour faire danser la vie. Il y a très peu qui font danser la vie, parce que tous y viennent des acteurs plus ou moins bons selon les qualités d'acteurs qu'ils ont.
Christine Lamazière.
Alors, on revient aux documents que nous avons vus hier soir. Ces documents ont-ils été projetés sur les écrans allemands?
Absolument.
Oui.
Absolument. Les Allemands sont une des télévisions qui ont les plus passé et repassé des émissions sur ce domaine. Moi, vous savez, j'ai été étonné par l'esprit de démocratie et l'esprit de vérité de la télévision allemande. C'est une chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Mais je pense pas peut-être que maintenant il les repasserait. Mais pour d'autres raisons, alors. Parce que c'est peut-être un peu tard, parce que le problème, c'est la réunification, parce que il y a des moments où les choses, il est passé pas à 8h30, mais c'est sûr qu'il y a
des heures. Mais c'est terrible, ce rappel des souvenirs, quand même, pour des Allemands, pour des jeunes Allemands,
oui.
encore à Marenberg.
Ah oui, absolument.
Absolument, c'est vraiment terrible. Et c'est...
Vous souffrez, par exemple, vous avez
moi,
vu ces
oui,
deux
bien
films,
sûr, hein. Je souffre, j'ai honte, je veux dire, j'y étais pas. C'est, encore une fois, comme je disais tout
mais
à l'heure,
allemande.
Mais je suis allemande, je suis quelque part de ce peuple, mais, même si je vis ici en France depuis 20 ans. Mais je vais vous dire, la première fois que j'ai vu tous ces Français avec la main tendue devant Pétain, pour la première fois, quand j'ai vu ça en France, parce qu'en Allemagne, par contre, ça, on l'a pas encore montré. Enfin, à l'époque où moi, je vivais en Allemagne, et je n'ai jamais vu à la télévision allemande un film sur les Français levant la main pour le salut nazi devant Pétain. Et quand j'ai vu ça ici, pour la première fois, j'ai eu aussi honte pour les Français.
C'est une très belle réaction de Madame Arenberg, parce que actuellement, je prépare un film de 1h30, 2 fois 1h30 sur Staline, en coproduction avec les Russes. Et la seule chose que les Russes m'ont dit, nous on vous fait confiance, vous faites ce que vous voulez, seulement vous parlez de ceux qui ont été staliniens hors de la Russie, eux qui n'étaient pas obligés. Vous voyez, c'est la même réaction. Vous devez parler de ça. Et ils ont, les Russes à Moscou, une liste d'écrits qui l'ont mis à côté des grands écrivains européens qui écrivent bien de Staline. C'est de cela aussi que vous devez parler. Vous voyez, ça me fait la...
Alors justement,
les autres aussi.
Frédéric Rossif, dans ces événements, il y avait ceux qui partaient, ceux qui restaient, et je parle des savants et des artistes, et on revient au film d'hier.
Tout au long de l'avènement d'Hitler, des savants et des artistes devront quitter l'Allemagne ou l'Autriche pour échapper aux persécutions ou pour marquer leur désaccord. Le psychanalyste Sigmund Freud, le physicien Albert Einstein, le dramaturge Bertolt Brecht, le musicien Kurt Weill, le romancier Robert Musil, le peintre Paul Klee, l'architecte Walter Gropius, le compositeur Paul Hindemith, les écrivains Thomas Mann et Hermann Hesse.
Très, oui, on disait très très bon, on parlait du texte de Philippe Meyer. Oui, oui. Très beau texte, et je crois que les auditeurs l'ont remarqué eux aussi.
Oui,
sans
oui.
emphase, c'est, sans littérature excessive, oui. Il n'a pas ajouté du verre au printemps.
L'histoire.
On nous a même demandé si c'était le même que l'on entendait le matin.
C'est caustique, dans un autre registre.
Parce qu'il a un ton beaucoup plus caustique. Oui, effectivement, c'est le même.
D'autres fiches.
Oui, de Bernard de Metz. Alors ça me paraît un peu surprenant comme fiche, mais enfin je la lis. Il est musicien de blues et de jazz. Il est d'origine allemande. Souvent, je vais en Allemagne jouer pour des concerts dans des maisons de jeunes, et dans certains de ces établissements est écrit encore, paraît-il à l'heure actuelle, interdit aux juifs.
Non.
Alors,
ah, non, sûrement pas. Moi, je chante aussi bien en France qu'en Allemagne. Il en est absolument pas question. C'est impensable, ça. Alors, oui, c'est vraiment, non, je suis désolée, mais ça, c'est de la connerie.
Ça me paraîtrait dément. Aussi,
non.
Et je peut-être pour certains groupes.
Mais Gérard Cher, vous avez entendu la question qui vient d'être posée par un auditeur?
Oui, ça serait complètement impensable qu'une inscription pareille puisse rester plus de 1 ou 2 heures sans qu'il y ait d'abord une intervention.
Ah, les maisons de jeunes.
De la police. Et sans aussi qu'il y ait une sorte de révolution médiatique, puisque les Allemands sont mais hypersensibles sur ce point-là, et il est complètement impensable que de pareilles choses puissent se reproduire, et il n'est pas certain que, par exemple, dans certaines réunions du Parti républicain, il n'y ait pas quelques allusions, mais même l'extrême droite allemande, aujourd'hui, refuse toute trace ou toute notion d'antisémitisme. Et,
justement. Et c'est des marques fortes.
C'est pas pensable que de pareilles choses puissent se produire, heureusement d'ailleurs.
Ça resterait peut-être une heure dans l'un de ces cercles peut-être nazis d'aujourd'hui.
Ah oui, non, mais ça c'est autre chose.
Encore.
Des néo-nazis, mais qui existent dans une maison de la culture officielle.
Qui peut exister en France,
oui,
en Italie,
bien sûr.
En Italie,
bien sûr.
En Espagne,
en nuance.
Et je crois que pour tout ce qui concerne le néo-nazisme, on en fait de grandes colonnes dans les journaux en France et à l'étranger. Mais il faut bien voir que les néo-nazis en Allemagne, c'est vraiment très très peu de choses. C'est quelques centaines de personnes.
Oui, il y a moins...
paradent dans les environs de Francfort ou dans les endroits reculés de Bavière. Mais c'est... Si ça n'était pas dramatique, j'allais dire que c'est folklorique.
Oui, anecdotique, mais quand même inquiétant. Même s'ils ne sont que quelques centaines, c'est déjà trop. Hein.
Peut-être que c'est trop, mais la réaction de l'opinion publique, elle, est quand même très saine.
Fort,
c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pris au sérieux parce qu'ils représentent un danger potentiel, mais qu'on arrive à relativiser la chose et que On ne peut pas dire que le néonazisme, les groupuscules néonazis, puisqu'il s'agit de groupuscules, mettent en danger la démocratie.
Ils vont parfois plus loin, Gérard Cher. On a vu récemment à la télévision, je parle de ça il y a environ 4 ou 5 mois, un reportage sur une véritable colonie allemande qui a été reconstituée avec des corps qui rappellent la Bavière, mais tout cela du côté de l'Amérique du Sud.
Oui, mais ça existe depuis très longtemps.
Par exemple, en Amérique du Sud, c'est sûr que du côté de
depuis 46,
dans le sud du Brésil, on a...
Il y a une île, d'ailleurs.
On a la nostalgie de la bonne vieille Allemagne de dans le temps, qui n'est pas forcément d'ailleurs une Allemagne marquée de manière néo-nazie, mais qui est une Allemagne, j'allais dire, une Allemagne du souvenir, une Allemagne perdue, une Allemagne de rêve, et que même en Allemagne, ici, on contemple ces vestiges du passé avec un peu de condescendance, un peu de sourire et pas trop d'inquiétude, parce que ça se passe vraiment très loin et que ce sont des gens en général déjà très âgés qui
Moi, je suis allé quand je faisais les opéras sauvages, là, où il y a ces colonies allemandes. C'est beaucoup plus l'Allemagne de Bismarck que l'Allemagne d'Hitler. C'est ça qu'il faut faire attention. Ils ont sauté. Hitler, au fond, parce que ça a été d'abord fondé avant l'hitlérisme, bien avant. Moi, celle que je connais la plus principale, d'ailleurs, qui est vraiment la grande colonie, qui est en Amazonie. Qui est vraiment... c'est l'Allemagne de Bismarck. On chante les chants de Noël de Bismarck. C'est l'Allemagne, et l'Allemagne de Bismarck, contrairement à qu'est-ce qu'on croit, c'est qu'on connaît très peu de choses, c'était une Allemagne très sociale. Les lois sociales les plus avancées d'Europe, c'était M. Bismarck qui les avait faites. Je veux dire, c'est ça, parce qu'on oublie aussi de...
Alors, Frédéric Rossif, ces deux films sont importants pour l'histoire. Ce sont des documents, et cette fois-ci, des documents vraiment reliés. C'est-à-dire, c'est la litanie des documents. Et en les regardant, je pensais à tous les révisionnistes qui disent les camps de concentration n'ont pas existé, les chambres à gaz n'ont pas existé. Je voudrais savoir comment ils réagissent devant des images comme celle-là, parce que là, c'est le témoignage ardent, c'est le témoignage cruel, c'est le témoignage féroce.
Vous savez, cher Chancel, moi, j'ai fait ces films un peu pour ça. Et vous voyez, c'est toujours difficile de parler des films qu'on fait, de parler de soi-même. Moi, je suis yougoslave, je suis même monténégrin, et nous avons perdu... nous avons perdu, nous, au fond, un petit peuple, on a quand même perdu 40% de notre ethnie. Moi, j'ai vu tous mes parents fusillés. Enfin, on n'en parle jamais parce que c'est beau de m'en parler. Mais ça m'avait beaucoup gêné, les révisionnistes. Ça m'avait beaucoup gêné, pas parce qu'ils disaient que c'était pas vrai, mais parce que ça me paraissait toujours l'oblitération de la vérité. À Nuremberg, on avait tout dit. Et actuellement, nous vivons dans une perte de mémoire étonnante qui tient à la multiplication des moyens d'information. Plus on est informé, moins on a de mémoire. Plus on a des moyens d'information, moins le souvenir de la lecture reste. Et c'est en partant de ces idées-là que j'ai voulu construire ces films, de dire aussi un hommage, un fragment d'hommage à la mémoire. Moi, je crois que c'est le devoir de télévision, la gloire de télévision, pas pour moi seulement, pas avec moi, mais avec beaucoup d'autres, de faire de ces grands monuments à la mémoire afin qu'on aille, comme au Moyen-Âge, certains couvents où il reste le livre, où il est écrit quelque chose, pas de subjectif, mais quelque chose pour témoigner ce que c'est. Parce qu'à Nuremberg, on avait tout dit. D'ailleurs, dans le procès, ils l'admettent. Ils admettent les 80 000 morts. Ils admettent Babillard. Ils admettent tout.
Il faudrait peut-être projeter ce film à M. Forisson chaque matin au petit déjeuner, les dernières 5 minutes.
Mais c'était pas tellement contre Forisson, parce que Forisson, c'est pensé à quelqu'un qu'il faudrait surtout pas en parler. Ça, c'est la meilleure des choses. Là, c'est toujours aussi le défaut de la... Malheureusement, trop de médias, ça veut dire qu'on cherche le détail insignifiant parce que la vie quotidienne n'est peut-être pas toujours glorieuse.
Frédéric Rossif, on sait qui vous êtes, on sait ce que nous vous devons, le cinéma et la télévision vous doivent par rapport à tous ces documents. Mais tout peut passer par une expérience personnelle. Et vous venez de dire, je suis de Monténégro, je suis yougoslave, on sait...
D'origine.
On sait ce qui se passe dans ces pays-là aussi. Comment on le vit, tout cela? Est-ce aujourd'hui une transformation du monde qui mériterait le grand film?
Ça m'est difficile de vous répondre pour la simple raison que d'abord, je me suis parti à 5 ans de Monténégro, donc on est, vous savez, on est latin, je suis plutôt franco-italien, si j'ose dire. Mais comment on vit, vous savez, là aussi, c'est pas du tout, on faut pas refaire l'histoire. Moi, j'aime beaucoup la Russie, j'y vais souvent, j'y tourne des films d'animaux depuis des années. J'ai tourné en Sibérie il y a 30 ans, la chasse au tigre. Donc, c'est un pays que j'aime beaucoup, même, je veux dire, comme hospitalité, une fois qu'on est en filière, et ils vous respectent du créateur, même pour petit que vous soyez. La Russie, c'est de, il faut toujours, moi, je voudrais seulement dire à tous les spécialistes de la Russie, disent, ah, ça va mal, etc. Une grande phrase de Dostoïevski qui est très belle, qui dit, l'âme russe sous l'agonie de Jésus. Il dit, Dostoïevski, il dit, nous sommes un peuple porteur de Dieu. Les autres peuples, ils le reçoivent chez eux, ils ont la, nous les portons. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être toujours en état de tragédie.
Nous le cachons, parfois.
Nous le cachons. Les Russes sont un peuple très, très apte, malheureusement, aux longues souffrances, et parfois je me demande même s'il ne fait pas partie de leur musique. Ils supporteront ça. Ils peuvent très bien faire les changements qu'aucun autre peuple faut changer. Et il faut tenir compte de cette donnée spécifique slave, cette longue habitude à la souffrance, au travail, à remonter de la nuit pour venir vers l'aube.
Alors deux témoignages, celui de, du réalisateur, du metteur en scène, et celui de Marienberg, par rapport à ces deux films. Lorsqu'on les a vus, on peut se poser la question... Faut-il la réunification d'Allemagne? C'est le grand sujet. Vous avez travaillé, Frédéric Rossif. Alors, comment réagissez-vous?
Oh, moi, ça me paraît, vous savez, que la réunification d'Allemagne, ça aussi, les mots, vous savez, la différence entre les mots et les significations des mots, les mots et les choses, justement. L'Allemagne, elle est réunifiée du moment qu'elle parle la même langue. Elle est aussi déjà réunifiée du moment qu'ils lisent tous de la même manière.
Ce n'est pas tout à fait vrai, Frédéric Rossif. Il y a quand même eu, pendant des années, le mur avec une même langue.
Non, mais la langue, le fait de pouvoir lire tous les deux Goethe dans la même langue, ça compte aussi beaucoup. C'est-à-dire que la réunification, c'est pas seulement de casser un mur, de mettre ça. Et puis la réunification, c'est à eux à la faire.
Oui.
C'est à eux à la sentir. C'est à eux à sentir jusqu'où il faut aller, où est-ce qu'il faut pas aller. Moi, je crois pas qu'il faut pas en faire un cas d'espèce. Ils viendront pas. Mais depuis, hier soir, on a dit une chose très intelligente que moi, je me souviens. Moi, ça m'a toujours paru un peu étonnant. L'Allemagne, la grande Allemagne, a été réunifiée très peu. Les États allemands ont toujours été très fédéraux. Le roi de Bavière, qui est Ludwig der Zweite, qui est un personnage merveilleux, qui fait en même temps Wagner qu'elle lui-même, il était roi de Bavière il y a 150 ans, enfin il y a deux siècles. Oui. C'est Bismarck qui a réunifié l'Allemagne. L'Allemagne a toujours été extrêmement libre d'une par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas la forme qu'il va prendre. Je ne crois pas qu'il faut en faire un querelle, alors, querelle politique.
Le sentiment d'une Allemande, Marienberg.
Réunification ou pas? Née après la guerre. Moi, je crois qu'il faut pas marcher plus vite que la musique. C'est aux Allemands de l'Est qui ont, sans une bavure, sans une goutte de sang, acquis les libertés toutes nouvelles. C'est à eux d'y décider ce qu'ils veulent faire. Et c'est à nous, aux gens de l'Ouest, de les écouter d'abord et de voir dans combien de temps et par quels moyens eux, ils veulent la réunification ou l'unification sous un toit de l'Europe ou pas. Et ça, je crois que c'est très important. Il n'y a pas d'Europe sans l'Allemagne. Et il n'y a pas, encore une fois, il ne peut pas avoir la solution à la question Allemagne sans une Europe, sans les États-Unis d'Europe.
Mais Marienberg, vous êtes née en 1946.
Oui.
Vous êtes allemande. Vous êtes née avec les deux Allemagnes. Disons, vous avez vécu avec les deux Allemagnes.
Et j'ai même vécu à Berlin au moment où le mur s'est construit.
Mais votre sentiment profond.
Mais je suis folle de joie. Il y a un tel espoir, il y a une telle liberté là subitement, c'est magnifique, je veux dire, c'est l'événement le plus heureux qui nous soit arrivé depuis la fin de la guerre. Tous les espoirs sont permis, alors réjouissons-nous, surtout dans un pays des droits de liberté de l'homme qui fête le bicentenaire cette année.
Oui. Surtout vous qui, il y a quelques heures, avez failli rester de l'autre côté du mur.
Non, moi j'étais installée avec mes parents à l'ouest, à Berlin-Ouest, et mes maman est médecin et elle avait des patients, donc on allait fréquemment avant le mur d'une partie à l'autre, et donc on a été profondément affectés. Et la semaine dernière, j'ai chanté toute la semaine à Paris. Autrement, vous pensez bien que je serais allée danser avec mes amis sur le mur de Berlin. Ah ben je pars la semaine prochaine, oui.
Gérard Cher, la réunification, c'est le grand mot.
La réunification, c'est le grand mot, mais je crois que c'est un faux problème. Ce qui a eu lieu et qui est extrêmement important et qui, je crois, ne souffrira aucun retour en arrière, c'est qu'il y a eu la réunification des Allemands. Puisque rappelons-nous les fêtes, le soir à 19h, M. Schabowski, qui est en fait le numéro 2 du parti en Allemagne de l'Est, annonçait que la liberté des voyages était acquise. Et ça a été... On a senti que les Allemands de l'Est étaient abasourdis. Ils n'y croyaient pas. Et vers 10h, quand ça a été confirmé par la radio, quand ça a été confirmé par la télé, les gens se sont précipités sur le mur, au point que les douaniers d'Allemagne de l'Est ont été submergés et ils ont laissé passer tout le monde. Il fallait théoriquement un visa, il fallait une pièce d'identité. Non, ils ont laissé sortir absolument tout le monde. Et ce qui s'est produit, c'est donc la réunification des Allemands. Et je pense qu'à l'étranger, surtout, on raisonne quand on parle de réunification en termes géopolitiques, en termes de pays, ce qui n'est... Ça ne s'impose pas, ça ne s'impose pas, même dans la constitution d'Allemagne de l'Ouest, où on parle de réunification, il n'est pas précisé que ça doit être la réunification d'un pays. Le texte dit « Le peuple allemand dans son ensemble, disposant librement de lui-même, reste convié à parachever l'unité et la liberté de l'Allemagne ». L'unité de l'Allemagne, ça peut très bien être deux pays, et on parle de plus en plus d'une confédération entre deux États souverains, qui auraient des systèmes... politiques et économiques différents, mais qui seraient complètement perméables l'un à l'autre. Et j'ai été frappé, moi, quand j'ai assisté à la grande manifestation du samedi à Berlin, où il y avait plus d'un million de personnes dans les rues, il y avait 26 orateurs, dont aucun n'a parlé de réunification.
Absolument.
N'importe aux Allemands, c'est de se retrouver, c'est de retrouver leurs cousins qui sont de l'autre côté, c'est de retrouver leurs parents, leurs amis, dont ils sont séparés depuis 20 ans.
Voilà l'important.
Et je pense qu'à l'étranger, et c'est vrai surtout dans les pays qui ont été en guerre contre l'Allemagne, on raisonne trop en termes de géopolitique.
Et de toute manière, c'est l'affaire de l'Allemagne. Et on revient au film, aux deux films d'hier et d'avant-hier. Et j'ai été frappé hier soir après le film. J'ai posé quelques questions comme ça tout de suite. J'ai dit, quelles questions souhaiteriez-vous poser si Frédéric Rossif était près de vous? Et la réponse qui m'a été donnée est celle-ci. Ce film est d'évidence. Il n'y a pas de questions à poser, tout est dit. Alors, y a-t-il des questions, Christine Namazière?
Oui, chose que je voudrais dire, qui est très importante, qu'il faut bien préciser. Ce film a fait, je m'excuse, moi j'avais très peur. Ouais. Parce que j'avais peur qu'il fasse, que les gens me disent, ah, c'est beau, c'est parfait, qu'il fasse 5 à 6% d'écoute. Il a fait une très bonne écoute, et c'est important. Parce que ça désigne en filigrane qu'il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du privé. C'est par exemple, c'est pas une querelle, là. C'est pas une querelle privée, entre le privé et la télévision d'État. Mais c'est un film qui peut se faire que sur une télévision publique. Pour une raison très simple. Est-ce que tu verrais, Chancel, qu'au milieu de ça, je mette la savonnette?
Ah oui. On n'oserait quand même pas.
Mais alors, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas parce que peut-être ils ne peuvent plus faire ça. Et ça, c'est là où la télévision d'État peut contre-attaquer et aussi faire de l'écoute. C'est-à-dire que la dignité, la qualité peut contre-attaquer tout le temps. C'est peut-être une leçon que je voulais tirer. Et je veux dire un mot pour l'Allemagne tout à l'heure. Moi, quand j'avais dit qu'ils étaient unis par la langue, c'est qu'est-ce qu'il dit le monsieur? C'est qu'eux, ils ont déjà une langue commune, donc tout est plus facile.
Ils se sont retrouvés.
La Yougoslavie est un État fédéré, mais il y a 5 langues. Tandis qu'eux, ayant une langue commune, ils sont déjà unifiés. C'est ça que je voulais dire.
Christine Lavadière.
Oui. Alors, il y a une fiche de Paulette qui dit, en voyant ces deux films de Frédéric Rossif, mais moi, j'ai un petit peu peur de l'unification de l'Allemagne face à l'Europe. Elle a peur d'un nouvel Hitler à notre époque. Voilà.
Mais non, justement, l'Europe ne peut pas se faire. L'Europe ne peut pas se faire sans l'Allemagne. C'est-à-dire, mais il faut quand même savoir que l'Europe a été aussi séparée à la fin de la guerre. C'est pas seulement l'Allemagne qui a été coupée en deux, en une partie ouest et une partie est, mais c'est toute l'Europe entière. Donc, du moment où les deux Allemagnes retrouveront une forme, peut-être justement en confédération, ce qui me semble effectivement l'idée peut-être la meilleure à retenir. Donc ça servira à l'Europe en même temps. C'est très très important ça.
Une autre question de Marie de Toulouse. Est-ce que Hitler aurait pu obtenir le même résultat avec un autre peuple? Est-ce qu'on aurait pu avoir un Hitler par exemple en France?
Le Duce et Franco et les autres dictatures. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas uniquement l'apanage du peuple allemand d'avoir été fanatique.
Ce sont les circonstances, c'est les
circonstances, c'est les
circonstances.
Et depuis, il y a une chose qui a été...
Le chômage, le traité de
Versailles. Un peuple qui a été absous de toutes ces horreurs, qui sont bien plus grandes que les horreurs allemandes. Si un jour on devait en faire une histoire, moi j'essaie de la faire, c'est les Japonais. Les Japonais ont fait des camps de concentration bien plus durs que les Allemands. Les Japonais ont coupé des têtes de prisonniers de guerre.
Frédéric, récemment, ce qui a pu se passer au Cambodge et qui pourrait recommencer demain.
Mais les Japonais ont été guéris par Hiroshima. Hiroshima, ça a été le grand voile sur lequel on y a tout pardonné.
Et à propos de l'horreur, et c'est encore un peu du film d'hier, j'espère que nous avons le document maintenant. Il est difficile, après tout cela, de porter encore le nom d'homme.
Ceux qui restent dans le ghetto habitent aussi les banlieues de la mort. Les éplucheurs de pommes de terre sont une friandise. Sur une couronne mortuaire dans un orphelinat, un ruban porte cette inscription « Aux enfants morts de faim, les enfants affamés ». 150 000 personnes souffrent du typhus, une maladie dont elles mettent en moyenne 14 jours à mourir. Dieu dit une prière anonyme, « Ôte-moi le nom d'homme, enlève-moi la vue, fais-moi de pierre, je ne veux plus porter le nom d'homme. » Le désespoir prend aussi la forme d'un blasphème ironique. « Merci, ô Dieu, d'avoir fait de nous ton peuple élu, mais s'il te plaît, tu ne pourrais pas en choisir un autre. »
D'autres questions, Christine Lamazière.
Paraît-il qu'en Allemagne, en RFA, il existe un organisme qui s'appelle, bon, j'ai pas bien le dire en allemand, AIF, vous le direz, je vous le montrerai, ma reine, qui aide les anciens hitlériens. Tenez, regardez le nom.
Ah oui, voilà, ça c'est, pardon, il y a un...
Non, mais ça existe.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que bon, entre les anciens nazis et les néo-nazis, encore une fois, il faut vraiment, vraiment essayer de lutter aujourd'hui. Et tout à l'heure j'ai dit que ce film devrait être projeté. Moi je pense surtout au monsieur qui a traité toute cette question juive de détail en France, et je crois que c'est très très important de parler de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, et d'essayer que ça ne se repasse plus dans le futur, plus jamais dans aucun pays.
Nous avons perdu une Allemagne, oui, de rêve.